Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc ce message s'intitule « Les clés du royaume ». Il fait partie d'une série sur l'autorité du croyant que nous avons besoin de réaliser plus que jamais. Quelle est l'autorité que nous avons et comment nous pouvons faire finalement ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas là pour chercher des moyens de soutirer de la puissance à Dieu pour notre propre usage, pour faire comme si on était Superman. Nous sommes là pour découvrir quelle est la position que nous devons occuper. Sur terre, rien de moins que ça. Le sens de notre existence. Pas seulement être heureux d'être enfant de Dieu, mais plus que ça. Réaliser que nous avons quelque chose à faire. Alors, nous avons parlé déjà de la souveraineté de Dieu pour établir où était le siège de l'autorité. Où est-il ? C'est le trône de Dieu. Voilà, c'est là où Dieu est. C'est de là que vient toute autorité. Notre verset de base, que je vais toujours rappeler pour que ce soit bien équilibré, c'est Romains 13, 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et toute personne qui ne veut pas se soumettre à Dieu montre par là sa nature de rébellion. Le rebelle par excellence étant Satan qui s'appelait avant Lucifer. Et tous ceux qui le suivent, la Bible les appelle les fils de la rébellion. Alors, c'est peut-être pas très flatteur pour nous d'être identifiés aux fils du diable, les fils de la rébellion, mais la réalité, c'est ce que nous étions tous avant d'être transportés dans un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu, où ces choses veulent de nouveau se mettre en place, avec une autorité de Dieu connue et exercée, avec une soumission volontaire parce qu'on sait que c'est le meilleur pour nous, et où nous découvrons maintenant que non seulement Dieu règne, qu'il est souverain, qu'il a toute puissance et toute autorité, mais nous découvrons que nous, ses enfants, il nous rend parfaitement participants à tout ce qui se fait sur terre. C'est pas peu de choses, hein. C'est vraiment exactant. Quand l'apôtre Paul nous appelle les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs, ce sont les personnages de plus haut rang qui existent. On envoie les meilleurs pour être ambassadeurs. Pas ceux dont on veut se débarrasser, on ne sait pas quoi en faire, soit on va en faire un ambassadeur. On envoie les meilleurs, ce sont des gens qui sont instruits, qui sont éduqués, qui ont une certaine classe et qui représentent un pays. Et nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Alors, nous avons vu le siège de l'autorité, nous avons vu où s'exercent les autorités. Aux portes, les portes étant des lieux de passage d'un endroit à l'autre, là s'exerce l'autorité. Il existe toutes sortes de portes spirituelles, on ne va pas faire résumé de tout ça. Et donc, la dernière fois, nous avions aussi un message sur le fait de ne pas craindre l'avenir. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Si nous sommes paralysés par la peur, on ne pourra jamais rien faire pour Dieu. Il fallait que nous réalisions que Jésus a triomphé de la mort et que nous n'avons plus rien à craindre parce qu'il est vivant. Et ça, il nous le dit dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il y a des gens qui ont peur de la mort pendant toute leur vie, ils ont peur de la mort. Mais Jésus dit, moi je suis maintenant quelqu'un qui est triomphé de tout ça. Et juste avant, l'apôtre Jean, quand il a eu cette vision de Jésus tel qu'il est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écroulé, il n'avait plus aucune force, il s'est écroulé. Et il était, comme certains disent, sans vie, comme mort. Il avait tellement peur de ce qu'il voyait, on peut dire toutes ses forces physiques avaient lâché. Première chose que Jésus lui dit, ne crains point. Il lui dit, verset 7, il pose sa main droite sur lui, verset 17, pardon, et dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. n'aie pas peur. Et quand Jésus dit n'aie pas peur, c'est pas juste un bon conseil ou une petite tape dans le dos en disant tout va bien, mais c'est plus que ça. Il chasse littéralement la peur. Vous savez, comme Jésus, quand il a agi dans les évangiles, il nous a dit à un moment, on l'a amené vers la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre est partie. Il s'adressait littéralement aux maladies ou comme aux esprits méchants ou ça peut être d'autres choses. Ici, c'était la crainte. Il dit ne crains pas et il se révèle tel qu'il est. Donc ça, c'était par rapport à la crainte. Et maintenant, nous avons déjà lu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je tiens les clés. Jésus tient les clés. Et nous avons vu déjà que non seulement il a reçu tout pouvoir et toute autorité, et ici il a reçu les clés, mais il dit « Allez, faites quelque chose en mon nom ». Et on va voir ce qu'il nous dit ce matin. Parce que même si nous connaissons la porte, même si nous savons que nous sommes censés exercer l'autorité, à quoi sert-il d'être devant une porte, de savoir que c'est la bonne porte, c'est là que je dois passer et que je voudrais entrer, si elle est fermée à clé, que vous n'avez pas la clé. On peut dire, j'ai tout compris, j'ai l'autorité, la porte est là, je suis devant, je n'ai pas peur, je veux rentrer, mais je n'ai pas la clé. Je ne sais pas comment faire. Donc, il est nécessaire pour nous de réaliser qu'il y a des clés. Autrefois, on parlait dans le passé historique, des fois quand des villes étaient gagnées par un ennemi, alors il y avait des gens de la ville qui sortaient, qui remettaient les clés. C'était une façon officielle de se rendre, de montrer que l'autorité a été transférée. Vous vous rappelez de certains épisodes peut-être historiques comme ça? On peut dire il existe toujours encore grandement actuellement cette notion de clé. Elle est présente partout. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un siècle d'informatique et de technologie. Et on a déjà vu qu'il y avait une autorité au niveau de l'Internet concernant des portails. Il y a des portes par où passent des informations par milliards à chaque seconde qui passe. Il y a des toutes sortes d'informations qui circulent. Et il y a aussi des clés. Il y a des mots de passe. Il y a des codes d'accès. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, sinon vous ne passez pas. Donc nous comprenons cette notion. Nous n'aurions peut-être plus l'idée de la vieille clé comme autrefois forgée avec lourde qui actionne un verrou ou que sais-je. Mais nous pouvons comprendre avec d'autres idées si nous n'avons pas le code d'accès, si nous n'avons pas le mot de passe, si nous n'avons pas la clé, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas y aller. Et alors tous les mystères et maintenant ces magiciens des temps modernes qui trouvent les mots de passe. Alors vous avez peut-être déjà une fois vu un film ou une série, ils n'arrivent pas à trouver le mot de passe. Et alors vient ce super crack de l'informatique, on ne sait pas comment, mais en quelques secondes, ils trouvent le mot de passe parmi des millions de possibilités. Et ça c'est toutes ces histoires, ces fictions qui nous font... entre guillemets rêver, parce qu'il y a quelque chose, le proverbe déjà de Salomon, il y a des milliers d'années, il parlait du pain du mystère. L'homme, l'être humain, est toujours attiré par le mystère, ce qui est caché, ce qui est secret. On aimerait savoir, pas sûrement on est curieux, hein, tout le monde est un peu attiré par... Et alors vous voyez fleurir aussi dans nos littératures chrétiennes des fois les clés qui vont vous permettre de faire ceci, les secrets spirituels qui vont vous permettre de comprendre cela. Et alors tous ces titres de livres, moi j'ai rien contre, hein, de dire si on veut faire un livre, il faut qu'on ait envie de lire, hein, donc il faut faire une bonne couverture, il faut faire un titre accrocheur. Mais il y a une attirance de l'homme vers ces choses mystérieuses. On aimerait savoir ce qui se passe de l'autre côté. Alors certains disent des fois, mais oui, mais on ne sait pas. Jamais personne n'est revenu. Ben si, Jésus est revenu. Il était de l'autre côté et il est revenu. Et il a dit, je suis le vivant. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Et moi, je sais ce qui se passe. Et je vous annonce des choses. Donc nous pouvons avoir des clés. Il a les clés. Il a pris les clés. Il détient les clés et maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne les clés. C'est écrit quelque part dans la Bible, ça? Que Jésus nous donne les clés? Oui? C'est écrit ou pas? Quelqu'un le sait? Jésus a les clés. Moi, j'ai dit la façon suivante. Jésus a les clés au ciel et nous avons les clés sur terre. C'est comme ça que ça se passe. Nous comprenons, je ne vais pas refaire le message de la souveraineté de Dieu. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Et au moment où il a dit « Allez, faites en mon nom », ça veut dire qu'il a délégué pour que nous agissions ici-bas. Nous n'agissons pas en dehors de lui ni contre lui. Nous agissons avec lui en son nom. Nous, on n'a pas de choses à faire au ciel puisqu'on est placé ici-bas. Et lui, quand il veut faire quelque chose sur terre, il veut passer par son église. Et c'est pourquoi lui qui a dit « Je tiens les clés », il dit à Pierre, Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, est-ce que tu as les clés? Je pose la question, toi qui m'écoutes ou qui êtes là. Est-ce que tu as les clés? Parce qu'ici il dit « Je te donne les clés ». Alors quelqu'un pourrait dire « Oui, mais c'est pas moi, il les a donnés à Pierre, d'accord ?» Et il y a longtemps, moi je dis « Jésus te les a donnés ». Il te dit « Je te donne les clés ». Mais il y a une différence entre le fait que Jésus te les donne et que toi tu les reçoives. Si quelqu'un te tend un trousseau de clés et dit « Voilà, c'est ma voiture, elle est sur le parking, tu peux la prendre ». Mais s'il te tend la main et il a les clés dans sa main, mais que toi tu ne les saisis jamais, ben là, ça ne pourra jamais se passer. À un moment donné, il faut dire « j'accepte ». Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur en disant « si je raye sa voiture, il ne va pas être content, je préfère ne pas l'emprunter de peur qu'il arrive quelque chose ». Mais c'est exactement la même chose, c'est juste une illustration. Ici, il est dit « je te donnerai les clés du royaume ». Et à cause de cela, et là je vais une fois de plus profiter pour régler le compte à cette fable de Saint-Pierre à la porte du ciel ayant les clés et demandant à chacun « qu'est-ce que tu as fait pour que j'ouvre ou que je ferme ?» C'est vraiment une fable qui a détruit une vérité spirituelle importante. On peut en rire, on peut faire toutes sortes de blagues sur Saint-Pierre, mais en réalité je n'ai plus tellement envie de rire de ça. Parce que je me rends maintenant compte quelle est l'importance vitale pour le peuple de Dieu de réaliser ce que Jésus lui a donné quand il a donné les clés. Et qu'on ne peut pas laisser ça juste entre les mains de ce personnage imaginaire qui serait un saint Pierre. Nous connaissons l'apôtre Pierre qui était un saint et qui est bien réel et qui a été un homme de foi. Et alors nous connaissons aussi cette image populaire. Alors, premièrement, il n'y a pas besoin qu'il y ait de Saint-Pierre à la porte du ciel, parce que la porte est ouverte. Et la porte n'est pas fermée. Elle n'est pas, bon, on l'ouvre pour celui-là, on referme, un candidat suivant, on examine. Nous avons un message puissant, c'est de dire aux gens, c'est pas après que ton accès au ciel sera déterminé. C'est maintenant, ce n'est pas après la mort. Quand tu es mort, tu t'en vas et tu te retrouves devant la porte et on te demande est-ce que tu veux rentrer ou pas ou et qu'est-ce qui se passe. C'est trop tard, c'est terminé. Rien que ça, c'est déjà important pour nous de replacer les choses dans leur réalité. Il n'y a pas quelque chose qui se détermine après. Ton accès au ciel se détermine maintenant, ici-bas, avant que tu sois mort. Et quand c'est décidé ici-bas, tu peux aller directement au trône de Dieu. Il n'y a plus de porte, ce n'est pas fermé, le chemin est ouvert, Jésus l'a ouvert. Il y a un accès direct jusqu'au sanctuaire. Quand on se rend compte, que ce soit volontairement ou involontairement ou par des blagues, de millions de gens qui ont été intoxiqués par toutes sortes de fables et de choses qui ne sont pas vraies, on se rend compte aussi quel est notre privilège et responsabilité de rétablir certaines choses. Mais, gloire à Dieu, alléluia, le ciel est ouvert, la porte n'est pas fermée, et les clés, c'est autre chose qu'une espèce de chose bizarre, d'une porte qui serait fermée. Donc, Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Dans Acte 3, Pierre et Jean on dit à celui qui était paralysé près de la porte du temple, il leur dit: ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors quelqu'un une fois dit dans un message, j'ai dit: oui, ça veut bien dire que Pierre et Jean avaient reçu un don particulier et que tout le monde ne peut pas dire: ce que j'ai, je te le donne. Seuls Pierre et Jean l'avaient. Quel est le don qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Alors, si vous n'avez pas tout le monde le nom de Jésus, c'est qu'il y a un problème. C'est justement le nom de Jésus qui change tout. Il n'est pas donné à quelques-uns seulement. Nous avons le droit de nous emparer par la foi de toutes les promesses de la parole de Dieu. Et je dis bien toutes les promesses. Et nous ne devons pas être attentifs à ces gens qui veulent, chaque fois que vous avez une bonne parole de Dieu, une bonne promesse, ils veulent vous voler en disant: oui, mais ça, tu peux pas le croire, parce que ça, c'était pour les Juifs, et ça, c'était pour un tel, et ça, c'était pour un tel, ça, c'était pour telle période, maintenant, ça s'est passé. Non! Les paroles de Dieu sont vivantes et elles sont pour maintenant. Vous pouvez vous en emparer si vous en avez besoin. Je prends un exemple qui va nous éclairer sur ça. Dans Isaïe 49, 6. Un jour, j'avais lu Isaïe 49, 6. Et j'étais enthousiaste de Isaïe 49, 6. Parce que Dieu m'a dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut aux extrémités de la terre. Ça, c'est la vision d'un jeune homme qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors, un pasteur bien plus âgé, avec beaucoup de sagesse, a ri de ça. C'était le rire d'incrédulité, vous savez, de Sarah, et a dit: oui, ça, c'est pas pour toi, Claude, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Car Isaïe 49, c'est le sauveur d'Israël. Cette parole parle de Jésus. C'est Jésus. Alors, comment peux-tu t'identifier à lui et croire que c'est toi qui vas être une lumière des nations? Qui a déjà eu cette prétention de vouloir être une lumière des nations? Levez la main. Ah, il y a des gens qui sont très humbles, ils n'ont jamais voulu être la lumière des nations. Oui, mais la nouvelle, c'est que Dieu voudrait que vous soyez la lumière des nations. Et alors, j'ai trouvé récemment, des fois, il y a des choses en nous-mêmes, on sent que c'est faux, on dit: mais si, mais c'est pas par orgueil que je veux être la lumière des nations, mais je veux être la lumière des nations parce que les nations ont besoin de lumière. Et je voudrais aider et faire en sorte que Dieu m'utilise pour être apporter un peu de lumière dans ce monde qu'on a bien besoin. Alors récemment, j'ai trouvé dans Actes 13 un discours de l'apôtre Paul. Et au verset 47, j'ai trouvé la chose suivante. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça m'a vraiment secoué de lire ça, parce que on pourrait dire: mais Paul, toi qui connaissais si bien la Bible, tu sais pas que ce texte parle de Jésus, le sauveur d'Israël? Comment peux-tu t'identifier, toi, Paul et Barnabas, à ce texte qui parle de Jésus? Alors, non seulement Paul savait parfaitement de quoi parlait le texte prophétique, mais il avait très bien compris, non seulement que lui aussi et Barnabas faisaient ce travail d'être lumière des nations, mais si vous avez bien lu avec moi, il va même plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ce n'est même pas une option, ce n'est même pas de dire: oula, tu es un petit peu ambitieux, toi, tu es un peu orgueilleux, tu veux être la lumière des nations, nous n'en sommes pas là. C'est tout simplement... L'orgueilleux, c'est celui qui se révolte contre l'ordre de Dieu. Si Dieu ordonne et dit: je t'établis pour être lumière des nations, et toi tu dis: non, 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 moi je veux pas de ça, hein, c'est beaucoup trop grand, moi je veux juste une toute petite lumière qui brille localement. Non, nous devons en réalité réaliser qu'est-ce que Dieu veut. Sa volonté, ce qu'il nous ordonne, c'est d'être la lumière des nations. Est-ce que ça vous donne maintenant un éclairage sur Matthieu 16, 19? Quand Dieu dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que moi, en tant que croyant, je suis totalement identifié à Pierre, qui n'est pas à ce moment-là ni apôtre de Rome, ni pape, ni je ne sais quoi d'autre. Il est quoi? Un disciple. J'ose même dire un disciple comme vous et moi, auquel Dieu donne une mission. Et cette mission de recevoir les clés du royaume et de s'en servir est donnée maintenant à tout le monde. Puisque nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Il n'y a pas, et ça j'aime à le répéter, il n'y a pas de clergé dans l'Église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de prêtre dans le sens, une partie du peuple sont des élus, des prêtres, des spéciaux, et les autres, c'est chrétiens deuxième catégorie, ou troisième, ou que sais-je encore. Il y a un seul peuple de rois et de sacrificateurs. Dieu t'ordonne ce matin d'être lumière des nations. En fait, quand il ordonne, quand il donne un ordre, ça ne veut pas dire « je mets la pression sur toi », ça veut dire « je te rends capable », « je te fais un cadeau », « je te donne un privilège », « tu peux être la lumière des nations ». N'est-ce pas merveilleux? Regardons ensemble encore, nous sommes toujours dans cette idée, Jésus a les clés au ciel, nous avons les clés sur la terre. Il a transféré une partie de l'autorité qui s'exerce sur nous, parce que celui qui a la clé, il a l'autorité. Il peut exercer l'autorité. Sinon, vous pouvez être motivé, vous pouvez être à la bonne porte, on a vu tout ça, et la porte est fermée, elle est fermée. Mais il y a une clé qui nous est donnée. Maintenant, le mot clé n'est pas toujours utilisé dans la Bible, ni trop souvent, mais il y a d'autres choses qui ont attiré mon attention, qui ressemblent à des clés. Dans Apocalypse chapitre 5, nous lisons au sujet d'un livre qui est scellé. Il y a un sceau sur le livre. Le livre, à l'époque, c'était des rouleaux. Et sur ces rouleaux, des fois, on mettait un cachet ou on mettait une cordelette qui était cachetée. Et donc, ce livre était fermé. Et spécialement que vous ne pouviez pas l'ouvrir et le refermer. On voyait que c'était fermé. C'est comme si vous ouvrez, ça c'est pas bien, mais si vous ouvrez du courrier qui ne vous est pas destiné, si vous voulez refermer l'enveloppe, on peut peut-être remarquer que ça a été déchiré parce que vous ne pouvez plus parfaitement le recoller comme c'était. C'est un petit peu l'image. Il y a donc un livre qui est fermé. On peut dire fermé à clé dans Apocalypse au chapitre 5. On va lire tout ça. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » C'est ce que nous sommes en train de dire. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Vous avez lu avec moi? C'est ça qu'il voulait faire. C'était son objectif. Il voulait faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et ils régneront où? Sur la terre. Comprenez bien que nous avons été habitués par nos enseignements, entre guillemets classiques, tout n'est pas mauvais, bien sûr, on a entendu beaucoup de bonnes choses, mais on a été beaucoup enseignés sur le fait que Dieu voulait régner. Mais ici, il nous est dit que Jésus s'est fait un royaume avec nous pour que nous régnions. Il n'est pas dit pour que lui puisse régner sur nous, pour que nous régnions. Ça veut dire que un roi, quel que soit son pouvoir, quelle que soit son autorité, qu'est-ce qu'il fait pour régner dans le naturel ? Il délègue, il a son administration, il a des personnes de toutes sortes de catégories et de rangs d'autorité. Et s'il veut exercer son royaume ou s'il veut gérer son empire qui s'étend, il faut que tout soit bien structuré, qu'il y ait des délégations et que ça aille jusqu'au bout du dernier village qui est peut-être très éloigné de la capitale. Ça, c'est des choses que nous comprenons, naturel. Dieu n'est pas limité, il peut être partout, il pourrait exercer son autorité et il le fait en réalité. Mais nous avons besoin quand même de réaliser qu'ici, il est écrit, ils régneront sur la terre. Ça veut dire que nous avons une chose concrète à faire où Jésus n'a pas seulement voulu se faire un peuple pour se faire plaisir en disant « je règne sur tous ces gens ». Mais il a voulu se faire un peuple pour avoir des gens avec lui qui règnent avec lui. N'est-ce pas merveilleux de réaliser ça ? Un royaume. Donc on a vu déjà un petit peu cette notion des clés et de la façon dont ça peut s'appliquer sur terre. Mais maintenant j'aimerais qu'on puisse voir encore dans une deuxième partie quelles sont ces clés. Parce qu'il ne nous est pas dit la clé du royaume, il nous est dit les clés du royaume. Il y a différentes sortes de clés. Par exemple, dans Luc 11, 52, il nous a écrit « Malheur à vous, docteurs de la loi !» Parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc la Bible nous dit ici qu'il existe une clé qui s'appelle la clé de la science. Ce n'est pas science dans le sens scientifique, c'est plutôt science dans le sens de connaissance, d'avoir accès à une certaine sagesse. Cette clé de la science est celle qui nous permet d'accéder à la connaissance des choses de l'esprit. Ces docteurs de la loi devaient être normalement des personnes qui conduisent d'autres à la connaissance de Dieu, mais il nous est dit, ils ont fermé cet accès. Par l'intellectualisme, par le raisonnement, ils n'ont pas donné accès aux autres parce qu'eux-mêmes ne sont pas rentrés. Et Éphésiens 1, la prière que nous faisons des fois et que nous pouvons recommander, c'est que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour moi, c'est ça, cette clé. C'est de recevoir cette capacité de voir les choses de l'esprit. Mais quand je dis un esprit de sagesse et de révélation, pensez à cette expression. Parce que dans le corps de Christ, ceux qui se sont réveillés par rapport à l'autorité du croyant, qui ont réalisé qu'il y avait des choses à faire par rapport aussi aux mauvais esprits, à leurs agissements, on a des fois utilisé l'expression « lier et délier ». On a lié des démons, on a dit « voilà, on lie un esprit de ceci, cela, je ne critique pas ». Mais j'ai vu aussi des choses se faire où des gens ont dit « voilà, il faut pas seulement lier, mais il faut aussi délier ». Alors nous délions un esprit, j'avais entendu d'une femme de pasteur, nous délions un esprit d'amour. Vous ne pouvez pas délier un esprit d'amour. Ça part d'un bon sentiment, on veut lier et délier, on veut rentrer dans des choses spirituelles, mais vous ne pouvez pas, parce que ce serait quoi cet esprit ? Il n'y a qu'un seul esprit qui est l'esprit de Dieu, qui communique l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous voulez le délier, premièrement, il n'est pas lié, mais donc vous ne pouvez pas agir de cette façon. En fait, des gens, sans le savoir et sans le réaliser, et je pèse mes mots, sont rentrés dans de la magie blanche. C'est une sorcellerie chrétienne pour faire du bien, mais où on dit des choses qui n'ont pas de signification. On veut faire du bien, mais ça ne correspond pas à la réalité de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas délier un esprit ni d'amour, ni de paix, ni de joie, ni de ce que vous voulez. Simplement, voyons ce qui se passe. C'est que la connaissance, la révélation, la sagesse, ces choses peuvent être retenues. Nous pouvons aussi délier ces choses. en commençant à aligner nos paroles sur la parole de Dieu, en disant « Oui, j'accepte le plan de Dieu et je crois que c'est possible. » Au lieu de dire sans cesse « Je comprends rien, la Bible, c'est trop compliqué, je comprends pas les choses de l'Esprit », de dire « Mais oui, l'Esprit de Dieu m'aide et me fait comprendre les choses. » Aussi le fait de lier, de délier. Alors certains, on était en train de lier et de délier n'importe quoi et de tout. Alors on chassait des esprits d'assoupissement sur les gens parce qu'ils dormaient pendant les réunions, mais certains avaient juste besoin d'aller se coucher et se reposer. Et pourtant, l'esprit d'assoupissement, je ne le dis pas pour se moquer, c'est une réalité. Il se peut des fois qu'il se manifeste quelque chose qui vienne sur les gens et qui les empêche de recevoir la parole de Dieu. Et c'est comme une espèce de torpeur, comme quelque chose qui... Et où on a besoin des fois de lier ou de prendre autorité dans le nom de Jésus pour que cette connaissance et cette révélation de Dieu puisse venir jusqu'à eux. Donc ce sont des choses réelles. Donc on a vu la clé de la science. Il y a aussi une autre clé dans Apocalypse 3:17. Il nous est dit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors, quelle est cette clé? Il nous est dit ici, la clé de David. David avait une clé spéciale, c'est une clé prophétique qui a été donnée et qui a été appelée de ce nom, la clé de David, parce qu'il y a eu une promesse qui a été faite à David, que de lui sortirait le Messie, et que le Messie serait un descendant de David. Qu'est-ce que fait cette clé? Cette clé ouvre la porte du salut. On a vu l'autre fois, dans le psaume, il est dit, il y a une porte du salut qui va s'ouvrir. Et cette clé de David, c'est celui qui est le saint et le véritable qui le reçoit. Et c'est un rappel du passage prophétique de Ésaïe 22:22. Je mettrai sur son épaule, le Messie, il aura sur son épaule, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est une clé qui ouvre la porte du salut. Et aussi, ça fait référence à la porte de la foi, dont les apôtres ont parlé. Ne fait pas de rappel constamment sur ce que nous avons déjà vu. La porte de la foi, c'est ce qu'ils ont dit dans les Actes des Apôtres. La porte de la foi était ouverte aux nations. Et la clé de David, c'est pas quelque chose de mystérieux ou de bizarre. C'est simplement le fait d'ouvrir et de donner la capacité à toute personne de réaliser qui est Jésus, le Messie. Et de pouvoir, par la foi, passer cette porte et rentrer dans la famille de Dieu. Puis nous venons à nos clés dont nous avons déjà parlé dans Matthieu 16:19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier dans le fait de lier et délier. Qui, là encore, ce n'est pas que je veux enlever quelque chose de la profondeur de cet enseignement sur les clés du royaume. Mais je voudrais un peu démystifier, pas dire c'est des choses tellement compliquées, complexes, super spirituelles, qu'il n'y a qu'une toute petite partie de personnes qui peuvent comprendre. Les clés du royaume, ce n'est pas tellement compliqué que ça. Pierre était en train de dire quoi? Quand Jésus lui a posé la question « Qui es-tu ?», il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu viens de recevoir de mon Père céleste quelque chose, on parlait de la clé de la science, tu viens de recevoir une révélation. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Et tu es heureux d'avoir reçu ça. » Et il a dit, « Et sur la base de ce qui vient de se passer entre nous, c'est sur cette base que va se fonder le royaume de Dieu. Je vais bâtir mon église sur tout ce qui vient de se passer à l'instant. » C'est-à-dire une révélation de Dieu, de qui je suis, moi Jésus, le Messie, et sur le fait que toi tu l'es reconnu. Tu as dit, oui je crois. Je crois que tu es celui-là. Et je le dis devant tous. Parce qu'ils étaient présents, les autres ont entendu aussi. On en revient, on peut dire vraiment à l'ABC de l'évangile. La puissance de Dieu n'est pas dans les choses compliquées et complexes. Elle est des fois dans les choses les plus simples et les plus basiques, mais appliquées dans le tous les jours. Et ici, il y a quoi ? Une révélation que les clés du royaume des cieux, c'est d'entendre quelque chose de la part de Dieu, réaliser ce que c'est, et se mettre d'accord avec ça, et le déclarer. Donc, c'est là que nous avons cette différence dans le grec. Entre le, il y a, chez nous, des fois, on le lit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Certaines versions ont voulu donner la nuance en disant, tu es pierre, et sur ce roc, je bâtirai sur mon église, pour dire, c'est pas sur pierre, l'homme, que l'église a été bâtie, mais sur le rocher de la révélation que Jésus est le Christ. C'est sur ça que l'église sera bâtie. Donc, en aucun cas, sur une personne. Il n'y a pas cette volonté de Dieu de faire chaque fois des différences entre ses enfants, de dire celui-là c'est vraiment un numéro spécial, j'ai un dessin spécial, et toujours de découper encore le corps. Alors il y a ceux qui annoncent, il y a des ministères spéciaux parce que vous êtes une femme, il y a un ministère spécial parce que vous êtes un jeune, ministère spécial parce que vous êtes un enfant, un ministère spécial parce que vous êtes âgé. Chacun est utilisé par Dieu à la place où il est et avec ses capacités. Mais il n'y a pas une volonté délibérée de découper le corps de Christ. Et il y a des choses qui peuvent être utilisées par chacun d'entre nous si on sait s'en emparer. De la même façon que lorsque Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection, il nous est dit dans Jean 20, 22, 23, après ses paroles, il avait dit certaines paroles, il souffla sur eux, leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Là encore, ce passage a été abusé fortement. Au départ, quand Jésus a dit à celui qui avait été amené dans la maison par le toit, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'était un scandale. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et ici, Jésus leur dit, cette capacité que j'ai reçue de pardonner aux gens leurs péchés, je vous la transmets, mais comment ? Pas parce que vous avez une espèce de pouvoir miraculeux ou surnaturel et que vous pouvez décider à qui vous alliez pardonner les péchés ou non, simplement parce que je vous ai donné le pouvoir d'annoncer l'évangile, de proclamer le salut. Et que si vous, vous libérez par vos paroles cette annonce de l'évangile, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, les péchés leur seront pardonnés. Ce n'est pas autre chose que ça. Kenneth Hagin écrivait dans un livre, il disait qu'il avait entendu une dame qui disait d'une autre personne, disant, de toute façon, cette personne n'ira jamais au ciel parce que je ne lui ai pas pardonné. Alors il a remis les questions, la chose en place, il a dit, non, c'est celle qui ne pardonne pas qui aura des problèmes pour aller au ciel, c'est pas l'autre. Il n'y a pas une capacité humaine de pouvoir retenir à quelqu'un le pardon des péchés. Mais vous voyez comment aussi cette notion a été utilisée par l'adversaire pour créer des systèmes religieux où une catégorie de prêtres pouvait donner l'absolution. Non, c'est par l'annonce de l'évangile qui a une puissance de Dieu que les gens peuvent accéder. C'est ça les clés du royaume qui ouvrent la porte du salut. Il existe encore, je suis persuadé, beaucoup d'autres mystères dans l'univers et nous sommes loin de connaître toutes les clés. Parce que la Bible ne nous parle pas de tellement de clés de ceci, de clés de cela. Je vous en ai cité quelques-unes. Il y a encore une clé dont nous parle l'Apocalypse. Il nous est dit au chapitre 9 et verset 1 qu'à un moment, il va y avoir un ange qui va sonner de la trompette, une étoile qui était tombée du ciel et la clé du puits de l'abîme a été donnée à cet ange. Donc il y a d'autres clés encore. Il y a beaucoup de mystères encore qui ne nous sont pas révélés. Mais nous n'avons pas besoin pour aller au ciel de connaître tous les mystères de l'univers. Et nous n'avons même pas besoin pour exercer notre ministère dans l'excellence et dans la puissance de Dieu de connaître tous les mystères. Nous avons juste besoin de connaître qu'est-ce que Dieu veut nous révéler pour aujourd'hui. J'ai même pas besoin de savoir déjà à l'avance pour demain ou pour dans un mois, parce qu'on ne sait même pas ce qui va être demain. Mais j'ai besoin pour aujourd'hui. Et moi je suis persuadé, nous avons cette foi en Dieu qui nous éclaire notre chemin pas à pas. C'est comme cette illustration que si vous êtes dans une voiture la nuit, vous dites pas si mes phares n'éclairent pas d'ici jusqu'à la maison, moi je bouge pas. Non, vous allez rouler les 50, 100 mètres ou je ne sais pas combien qui sont éclairés. Et quand vous aurez fait ce chemin, vous allez vous rendre compte qu'il y a à nouveau une nouvelle portion qui est éclairée maintenant. Et ça vous suffit. Faites la même chose, faites ces choses, ce sont des choses de bon sens. Alors comment utiliser ces clés? Nous pouvons reprendre l'illustration du policier. Ce sera notre partie de conclusion. Comment l'utiliser? Le policier, il y a quelque part pour lui un siège de l'autorité. Ça peut être le gouvernement, ça peut être la ville. À un endroit donné, il y a le siège de l'autorité. C'est là, de là que dépend. Vous ne pouvez pas vous-même vous déguiser en policier et faire le policier. C'est puni par la loi. Donc, vous ne pouvez être policier que si vous êtes, si vous avez reçu le mandat de quelqu'un qui a l'autorité d'exercer ce métier. Ensuite, il y a un endroit où vous exercez cette autorité. Par exemple, prenons un carrefour. Il y a un carrefour dans la rue. Donc, c'est l'endroit qui vous a été déterminé. Voilà, tu vas te placer ici, tu vas régler la circulation. Et ensuite, pour reprendre nos différentes étapes que nous avons, il faut dépasser la crainte. Si le policier dit, oula, moi je ne sais pas si je pourrais aller dehors en uniforme, moi je n'ose pas, je reste à l'intérieur. Et puis, non, à un moment donné, il faut qu'il sorte. Et on lui dit, voilà, ton job c'est maintenant, tu vas, tu as ton uniforme, tu es mandaté, tu vas et tu vas faire ton boulot là. Donc, pour nous aussi, à un moment donné, il faudra obéir. Quand Jésus a ordonné que nous soyons la lumière des nations et qu'il a dit « Allez », à un moment, il faudra le faire. Sinon, vous ne pouvez pas tout le temps tourner en rond et rester dans votre chez vous replié. Donc, il faut dépasser la crainte et oser y aller. Ensuite, une fois que vous êtes maintenant sur place, maintenant, il y a quelque chose à faire. Vous devez avoir déjà une certaine attitude. C'est de ça que nous parlons maintenant. Utiliser les clés, c'est une certaine attitude. S'il est un petit peu renfrogné comme ça, sur lui, mais je n'ose pas et tout. Non, à un moment donné, il faut qu'il se place et puis il faut qu'il agisse. Il soulève sa main, vous voyez, il y a le gant blanc qui se soulève, ils sifflent dans leur sifflet, ou ils peuvent interpeller, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et ça risque de poser un problème au carrefour. Les bouchons, ça ne circule plus, ça va mal. Donc, notre chose à nous, c'est pouvons-nous rester des chrétiens silencieux? Pouvons-nous rester là, à l'endroit où Dieu nous a placés, et voir cette pagaille qu'il y a autour de nous? Tout est bouché, ça ne circule plus, les gens, peut-être certains sont déjà cognés les uns contre les autres, vous savez deviennent des fois les automobilistes, peut-être déjà ils se crient dessus, mais c'est l'image du monde telle qu'il est. Nous sommes dans cette réalité, mais nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Nous pouvons agir. Quand il nous est dit je te dis, tu es Pierre, sur ce rocher je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le policier, il ne se pose pas de questions en disant, mais je suis un jeune policier, j'ai peu d'expérience. Le fait qu'il ait son uniforme, qu'il soit revêtu, vous ne dites pas, je refuse d'obéir à ce policier parce qu'il est un jeune policier, il n'a pas d'expérience. J'obéirai seulement si c'est un policier qui a 10 ans d'expérience, qui me donne un ordre d'arrêter ma voiture ou de faire je ne sais quoi. Mais nous sommes, spirituellement, nous sommes dans ce type de raisonnement. Nous disons, bon, qu'un mauvais esprit ou un démon obéisse à tel serviteur de Dieu, c'est normal. Après tout, il a de l'expérience, ça fait 20 ans qu'il est dans le ministère, il prie et jeûne, etc. Donc là, c'est normal. Mais par contre, pour moi, ça ne pose aucun problème. Ça dépend de vous, ça dépend de votre attitude et de votre volonté de vouloir agir. Vous êtes d'accord? Le policier, il peut être nommé 2 minutes avant, dès qu'il a l'uniforme et qu'il fait ce qu'on lui dit de faire, l'autorité doit s'exercer. Sinon, il y a des hors-la-loi qui seront poursuivis. Et vous croyez que c'est autrement dans l'univers? Nous savons que Dieu peut donner la clé de l'abîme. Il y a assez de prisons spirituelles pour enfermer les hors la loi. Il y a déjà un endroit qui est préparé pour eux pour l'éternité, les temps de feu et de soufre, où ils seront jetés, le diable, ses anges et tous ceux qui veulent être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est une réalité. Donc, nous avons l'autorité. Nous devons ouvrir notre bouche. Nous devons permettre à Dieu d'agir. Nous devons apprendre à donner des ordres. De la même façon que Dieu est en situation d'autorité, qu'il donne des ordres. Vous avez l'autorité. Vous êtes en place aux portes. Utilisez vos clés. Utilisez les clés que vous avez. Ouvrez les portes. Apprenez à donner des ordres. Utilisez votre autorité ou alors toute la puissance de Dieu qui est à votre disposition. Vous savez ce qui va arriver? Elle sera perdue tout simplement. On parle des fois du potentiel. Le potentiel ne sert à rien si on n'en fait rien. Quelqu'un dit, l'endroit où il y a le plus de potentiel, c'est le cimetière. Là, il y a toutes ces vies de tout ce que ces gens auraient pu faire pendant leur vie, qu'ils n'ont pas fait. Pas seulement des vies jeunes qui ont été abrégées, mais rien que des gens qui n'ont jamais un instant se sont occupés de quelle est la volonté de Dieu pour moi, quel est son dessein pour ma vie, à quoi je suis destiné. Le cimetière, c'est l'endroit où il y a le maximum de potentiel. Donc, il ne faut pas se flatter en disant ouais, « Nous sommes des chrétiens qui avons plein de potentiel. » À la rigueur, j'ai envie de dire « S'en fiche du potentiel si on n'en fait rien. » Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu. Alors, à l'image de Jésus, on est devant ce cimetière, où il y a des choses qui sont enterrées dans notre vie, il faut dire « Lazare sort. » Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus disait à son Père Céleste, il disait « Je te remercie parce que je savais que tu m'exauces toujours. » Même avant que je dise « Lazare sort », je savais déjà qu'il allait sortir. Les choses qui sont enterrées dans votre vie, celles qui ne se sont pas réalisées, c'est des fois par notre faute, il faut être honnête. C'est parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour qu'elles puissent sortir, pour qu'elles puissent se réaliser. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, n'importe où, ça c'est clair. On va peut-être une autre fois examiner les limites de notre autorité aussi. Mais il y a certainement beaucoup de choses que nous avons négligé de faire. Alors, utilisons cette autorité dans le nom de Jésus. Et ayons cette vision. Lazare sort. Ce qui est mort doit ressusciter. Ce qui a été abandonné doit peut-être être retrouvé. Ce qui a été mis de côté doit de nouveau être mis en honneur. Il y a des dons et des talents cachés, enfouis très, très profondément. Alors, il faut creuser, il faut les ressortir. Nous avons les clés pour ça. Alors faisons-le. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.